Je suis petite, hein, là je me sens toute enfoncée, voilà. Alors, moi je suis partie, en fait, de cet article du Monde, Grand Écart. Et ce soir à 5h, j'ai eu un mail de Paris, une nouvelle, un communiqué de presse conjoint du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, qui annonce que la délivrance des visas de circulation sera facilitée. Donc le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur ont donné instruction au réseau diplomatique et consulaire d'améliorer partout c'est possible le taux de délivrance des visas de court séjour, dits de circulation, ainsi que leur durée de validité. C'est une chose que nous avions demandé instamment, et donc en soi c'est une bonne nouvelle. Parce que depuis longtemps, nous disons que si les gens avaient des visas de circulation qui leur permettent de venir, de repartir, de revenir, ils ne tiendraient pas absolument à rester. Et c'est tout simplement le droit de circuler, hein, la liberté de circuler, et cela arrangerait sans doute bien des choses. Alors, où est le grand écart? Eh bien, c'est que quand on lit la fin de la phrase, ces visas de circulation sont faits principalement pour les talents étrangers. Voilà. Donc, cela touche quand même un certain nombre de personnes qui est très très limité, hein, pour créer des emplois, développer les échanges, participer à l'effort de recherche ou de création artistique. Il s'agit d'hommes d'affaires, d'universitaires, de scientifiques, d'artistes, de touristes ayant la France pour destination privilégiée. Donc voilà une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que la politique de délivrance des visas de la France était aujourd'hui problématique, parce qu'il est vrai aussi que sur cette politique, il y avait de véritables violations des droits de l'homme. Et en même temps, le fait que c'est quand même discriminatoire, parce que c'est réservé à une certaine population. Et je dirais, ce grand écart-là, c'est ce qu'intitulait l'article du Monde, hein, le grand écart de base, on va le retrouver tout au long, en fait, des différentes mesures et des circulaires qui ont paru, malheureusement. Voilà, donc je viens d'avoir ça, hein. Donc voilà, je voulais l'utiliser un peu en introduction.
Vous pouvez répéter la formule à la fin de la phrase, c'est comment?
Alors, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur s'engagent en faveur de la délivrance de visas de circulation pour les talents étrangers. Les talents étrangers. Ouais. Ça c'est le...
Le pompier n'a pas de talent, ça veut dire ça.
Oui, bon, oui. Bon.
Les pompiers n'ont pas de talent. Non, c'est raciste, du racisme social.
C'est pas ça. Hein.
Non.
Puisqu'on s'est appuyé là-dessus, et le monsieur qui a eu son permis grâce à ce...
C'est parce qu'il avait une profession...
C'est parce qu'il avait une profession, et il avait une profession dans le bâtiment.
Ça, c'est un peu autre chose. Hein. Là, il ne s'agit pas de visa. J'y reviendrai avec la circulaire, hein, et le droit au travail. Là, c'est vraiment pour les visas et c'est pour le droit de circuler librement. Vous voyez, c'est un peu un autre aspect.
Vous n'avez pas le droit d'éclairage à la fois.
Alors c'est un visa qui permet d'entrer, c'est les visas court séjour. C'est très intéressant parce que ça permet d'entrer et de sortir. La durée de validité, c'est entre 6 mois et 5 ans. Ça permet de séjourner en France et dans l'espace Schengen 90 jours par période de 6 mois. Donc voilà, on peut venir un mois, deux mois, trois mois, on peut repartir. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui serait très intéressant pour les gens qui ont leur famille en France et qui ne veulent pas forcément rester là. Hein, on a vu, par exemple, des parents âgés de gens qui étaient en France, qui avaient leur titre de séjour et qui voulaient venir repartir, mais qui n'arrivaient pas à avoir leur visa. Puis du coup, ils sont restés parce qu'ils avaient trop peur de ne plus pouvoir retrouver leurs enfants par la suite. Donc, voilà, c'est pour des choses de genre là que ce serait vraiment, vraiment possible. Et malheureusement, c'est très difficile d'obtenir un visa aujourd'hui dans toute une série de pays. C'est une chose pour laquelle on se bat beaucoup, parce que nous, ça ne nous pose aucun problème d'avoir un visa. On peut être touriste dans le monde entier, alors qu'il y a une partie du monde qui ne peut pas circuler comme nous le faisons, moi.
L'appréciation du talent, c'est le préfet ?
Non, c'est dans les ambassades étrangères, la demande de visa hein, qui se fait.
Oui, donc ça c'est un peu pour le moment.
Ah non, c'est pas la
c'est pas du tout la
raison. Non, c'est pas la
parce que moi, je pense à la mère de ma coiffeuse, qui est vietnamienne. Eh bien, elle a eu le droit de venir l'année dernière à Noël, et elle a dû repartir, je crois, le 5 janvier. Et le 6 janvier au matin, il y avait la police chez la coiffeuse pour vérifier que sa mère était partie. Ce qui montre quand même que, on déploie la police pour des vérifications qui sont inquiétantes. Hein. Et cette vieille dame ne faisait vraiment pas...
Est-ce que vous savez quels sont les ambassades à propos de talent, justement, est-ce qu'il y a une liste
On peut imaginer que... Moi, je pense aussi que cela est dû au fait qu'on a appris ces derniers temps de plus en plus que les étrangers, et que les étudiants partaient ailleurs qu'en France aujourd'hui. Hein. Ils partent au Canada, ils partent en Allemagne, ils partent... et ce sont des gens qui ont... Alors, c'est terrible parce que c'est des gens qui ont fait leurs études chez eux. Donc, ils arrivent avec leur diplôme, et puis, ils viennent travailler. Donc, ils vont au Canada, ils vont aux États-Unis, ils vont en Allemagne, mais c'est vrai qu'ils étaient peu attirés par la France.
Non, mais ce qu'il y avait aussi, c'est que de plus en plus souvent, par exemple, pour des universitaires ou des scientifiques étrangers, étaient invités en France, soit pour un travail collectif, soit pour un colloque, par exemple,
et qui sont bloqués à la frontière et remis dans un avion.
Dans l'article où il est question du prochain objectif, attirer les talents étrangers, on dit dans son alinéa numéro 17, celui-ci prévoit, donc le gouvernement, d'accueillir les talents étrangers et les visiteurs professionnels qui contribuent au rayonnement de l'économie française. Voilà. C'est ça qui est la citation.
C'est pas l'immigration choisie, hein.
C'est pas du tout.
Ça porte un autre nom, quoi. Bon, voilà. On revient quand même à oui, alors ça, oui là, c'est plutôt, je pense, je voulais juste redire, donner une information que vous avez peut-être eue. Nous avions préparé la campagne des présidentielles l'an dernier, et d'ailleurs des législatives, avec un document qui s'appelait « Les 40 propositions ». Pour une politique d'hospitalité et non d'hostilité. Hein. Voilà. Alors, on n'est pas naïf, hein, on ne va pas ouvrir à tout vent, etc. Mais en fait, ce qu'on demandait, c'était basé sur des travaux de chercheurs, d'universitaires, de scientifiques. Ce qu'on demandait, c'était un retournement, en fait, de la situation, enfin, un retournement de la politique, et nos propositions découlaient en fait de notre travail de terrain. Nous partions du constat que la politique du gouvernement précédent était coûteuse, très coûteuse, sans résultat, si ce n'est de précariser encore plus une certaine population, de créer de la misère et de faire le jeu de l'extrême droite. Et partant de là, nous avions des propositions, comme par exemple, on avait fait tout un travail sur les visas. Donc c'était une des propositions que nous avions, et il y en avait donc une quarantaine en tout, avec 6 courses socles. C'était argumenté, on les a présentées aux candidats, aussi bien à la présidentielle que sur place, on est allé voir plusieurs députés. Et puis, voilà, les élections ont passé. Pendant la campagne, pendant les présidentielles, on n'a pas tellement entendu parler, en tout cas dans la bouche des principaux candidats d'immigration. Et puis, voilà, M. Reiss est devenu ministre de l'Intérieur. En juin 2012, il annonce une loi pour créer un titre de séjour de 3 ans. Et en fait, il n'y a pas eu de loi, il n'y a eu que des circulaires. hein, on verra un peu après pourquoi. Maintenant, il semble qu'une loi se prépare pour, dans quelques mois, une loi pour donc remplacer ce fameux code qui est en vigueur actuellement, code d'entrée, de séjour des étrangers, des demandeurs d'asile. Hein. Il dit aussi qu'il est le ministre d'un État ouvert, généreux, qui définit des règles claires et qui les fait appliquer de manière ferme. Ça, c'était ses tout premiers mots au mois de juin dernier. Alors, l'une des premières choses qu'il avait faites, et bon, c'est intéressant, c'était la possibilité de passer de la carte étudiant à la carte salarié. En fait, ça existait dans la loi Guéant, mais Guéant avait réduit cette possibilité, hein, mais elle existait déjà. Donc, ça, c'est l'une des premières mesures de M. Valls d'avoir fait cela. Il annonce, il y a eu comme ça quelques mesures qui nous ont semblé au départ, voilà, pas trop autres. Il annonce l'arrêt de la rétention des familles, précise les règles de leur assignation à résidence et dit que la rétention sera en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, rétention, bon, vous savez que ce sont ces lieux où les gens sont enfermés avant d'obtenir un laissez-passer pour partir. Et donc nous avions, la CIMAD avait longuement travaillé dans les centres de rétention. Nous avons bien vu aussi qu'il y avait dans ces centres des gens qui n'avaient absolument rien à y faire, que souvent ils n'étaient pas expulsés parce que finalement ils n'étaient pas expulsables, etc. Et que en particulier les familles n'avaient absolument rien à y faire parce qu'il n'y avait pas de lieu pour les recevoir et en particulier pour les enfants. Donc nous avions vraiment, vraiment demandé l'arrêt de cette mesure. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a peu des familles. Bonjour.
Je joue le point juillet 2012. Hein.
Donc la première, c'était le passage de la carte étudiant à la carte salariée et ensuite l'arrêt de la rétention des familles et précise les règles de l'assignation à résidence. Hein, donc en fait, remplace une mesure par une autre. Il y a quand même eu, au courant de l'année, des familles en rétention. Il y en a eu à Metz, par exemple, au centre de rétention, il y en a eu dans d'autres régions de France, et il a fallu chaque fois intervenir. La troisième mesure, c'est la fin du délit de solidarité. Ça, c'était pas bien. De toute façon, il n'y a pas eu énormément de gens qui ont été touchés par cette mesure. Donc, finalement, voilà, c'était pas terrible. Hein. Une autre mesure a été prise qui semble, sur le terrain, importante. C'est l'abrogation des 30 euros pour obtenir l'aide médicale d'État. Parce que, effectivement, ce paiement de 30 euros, ça ne semble pas beaucoup, mais exclut à des soins un certain nombre de personnes qui étaient marginalisés de cette façon-là, et les médecins qui les voyaient ont très souvent sonné l'alarme hein, en disant que c'était un vrai problème. Hein. Donc voilà, nous avons été contents de cette mesure. En août 2012, le ministre signe alors avec plusieurs autres collègues une circulaire visant à l'anticipation et l'accompagnement des opérations d'évacuation de terrain et des campements de Roms. Il y a eu l'été dernier un certain nombre d'évacuations qui avaient provoqué pas mal d'émotions dans le pays, de manifestations, etc. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un dispositif de coordination des acteurs locaux était prévu, des mesures d'accompagnement des personnes en mobilisant des moyens de droit commun devaient être mis en place. Il s'agit d'accompagnement en matière scolaire, de santé, d'emploi, de logement, de mise à l'abri. Ce que je retiens aussi de ces mesures, c'est la liste des métiers, on a parlé avant de métiers, la liste des métiers qui leur sont ouverts sans que la situation de l'emploi ne leur soit opposable, a été allongée. Alors moi, j'aime pas trop parler des communautés roms, mais ce sont, là en l'occurrence, des Bulgares et des Roumains. Hein, voilà, qui sont sur notre territoire. Donc je pense que c'est important, et non pas d'utiliser le mot de l'ethnie, mais de parler de ces populations-là. Donc 291 métiers sont ouverts. Autre chose, les taxes payées par l'employeur et par le ressortissant étranger s'il obtient un titre de séjour, ces taxes ont été supprimées. Et ça, c'est important. Parce que ça, c'était une barrière qui était forte. La taxe pour l'employeur est très forte. Et très souvent, les gens ne peuvent pas aller chercher leur titre de séjour eux-mêmes parce que, j'en reparlerai peut-être, les taxes qu'ils doivent payer pour avoir un titre de séjour sont trop fortes. On en rencontre très souvent. Donc ça, c'est un point important aussi. Autre chose encore, ces gens peuvent être orientés vers des structures d'insertion et bénéficier de formation, ce qui est important aussi. Donc, voilà, c'est une ouverture. Après, il y aurait beaucoup de choses, mais on n'est peut-être pas là pour parler de cette situation-là. C'est une ouverture, mais en même temps, le statut particulier des Roumains et des Bulgares doit s'arrêter en janvier 2014. Donc voilà, je veux dire, c'était prendre 6 mois à l'avance des mesures qui allaient très certainement être prises. Autre problème, ils n'ont plus besoin de payer la taxe, mais par contre, il leur faut une autorisation de travail à la préfecture. Et celle-là, elle est très difficile à obtenir. Je me souviens de cette femme qui avait un emploi, c'est Emmaüs Mundo qui en parlait, qui avait un emploi depuis des mois à Strasbourg, un emploi de vendeuse, elle pouvait l'avoir tout de suite, et bien elle n'a pas eu l'autorisation de travail.
Mais maintenant, elle l'a eu.
Elle l'a eu maintenant, il y a quelques semaines. Mais on en a entendu parler au mois d'octobre dernier.
Elle travaille à Emmaüs Mundo.
Oui. Voilà. Donc, ça c'était pendant l'été. Au mois de novembre, donc il y a eu cette circulaire dont vous avez parlé avant, le 28 novembre, une circulaire très attendue sur les critères de régularisation des sans-papiers. Le but n'est pas de régulariser en masse, disait-il, mais il comptait bien rester sur le rythme de ses prédécesseurs, c'est-à-dire en gros 30 000 étrangers par an ces dernières années. Mais elle vise à définir des critères de régularisation clairs et précis pour mettre un terme, disait-il, à l'arbitraire des préfectures. Alors, une date d'entrée est prévue, mais pas de date de fin de la circulaire, pérenne, tant que la loi ne change pas. Alors, on nous a tout de suite précisé qu'il ne fallait surtout pas se précipiter. Nous pensions avoir pas mal de coups de fil de gens qui se disaient intéressés, qui disaient qu'ils allaient entrer dans ce cadre-là. Mais il faut prendre du temps pour vérifier que les gens remplissent bien les conditions et puissent présenter un dossier qui doit être très complet et qui est relativement compliqué à monter. Donc ça peut mettre des mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas pour l'instant capable de vous dire que cela a vraiment changé. Je ne sais pas si à Colmar, vous avez plus de renseignements.
Alors, oui, sur le nombre. Il y a des changements sévères, il y a des gens qui aujourd'hui obtiennent un titre qu'ils n'auraient pas eu il y a encore avant la circulaire. Ça, c'est certain. Mais comme il y a aussi le côté négatif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient pu avoir un titre avant que cette circulaire n'existe et qu'ils n'ont plus, parce qu'on a mis des règles en place.
Tout à fait.
Et les préfets s'appliquent à les appliquer. Ouais. Et donc, il y a des endroits où les préfectures étaient peut-être plus souples que chez nous, et où les choses sont...
Ça a plutôt été un durcissement.
Mais on constate que ça fonctionne, pas tout à fait légalement néanmoins, en ce sens que les préfectures, en tout cas celles du Haut-Rhin, mettent des délais importants.
Mais nous, on n'a pas encore toutes les demandes qui ont été déposées parce que, bon, comme il faut beaucoup de preuves, et des preuves très solides, on a mis un certain temps à les établir et donc nous n'avons pas encore toutes les réponses. Par contre, ce qui a changé, autant je crois que chez vous, mais à Strasbourg aussi, ce sont nos relations avec la préfecture. On est mieux, nous, en tout cas, quand on téléphone, on est mieux accueillis. Nous avons eu une réunion avec le préfet après son arrivée. Quand je dis nous, c'est les associations qui vont régulièrement, en gros une fois toutes les 6 semaines, tous les 2 mois, nous allons à la préfecture avec un certain nombre de dossiers que nous présentons. Alors, ce sont normalement des dossiers humanitaires, qui n'entraient pas en fait, vraiment. dans le cadre du CCDA, ou alors vraiment pour le titre humanitaire. Et donc, les associations qui formaient ce groupe ont été reçues. Nous avons pu, à ce moment-là, discuter de la circulaire, voir quelles pouvaient être les limites de l'application, les ouvertures. Et puis, nous avons eu une première réunion il y a quelques semaines, donc avec des dossiers. On n'a pas encore toutes les réponses sur les dossiers qu'on avait présentés. Hein. Alors, pour l'instant, en fait, l'ensemble de la réglementation qui était en vigueur, le reste, hein, nous n'avons pas changé, en fait, de système. Donc, nous sommes toujours sur le même code de loi qu'auparavant. Hein. C'est bien ça. Hein. Si les conditions qui sont prévues dans la circulaire sont totalement remplies, le préfet conserve toujours son pouvoir d'appréciation et peut refuser la délivrance du titre de séjour.
Est-ce que, puisqu'il était question d'arbitraire des préfectures, le terme est important quand même, l'histoire de l'arbitraire des préfectures, ça veut dire quand même qu'il garde son pouvoir d'arbitraire. Oui. Est-ce qu'il doit le justifier?
Mais en fait, ce n'est pas de l'arbitraire, parce qu'il y a une loi. Mais il y a un pouvoir discrétionnaire. Ils se sont aperçus au ministère de l'Intérieur, ils ont fait des statistiques de ce que faisaient les préfets dans tous les départements. Ils se sont aperçus qu'il y avait un traitement différent selon les départements.
Totalement différent.
Donc c'est discrétionnaire, mais pas arbitraire, puisqu'il y a une loi.
Une circulaire n'est pas opposable
en moi. Exactement, non, ça, elle n'est pas opposable. Et c'est pour ça qu'on attend.
Voilà, exactement. Oui, rien n'a changé de ce point de vue.
C'est un texte d'application de la loi, c'est tout. Hein. Voilà. C'est pas un texte qui amène de gros changements. Et le refus de séjour sera toujours accompagné d'une obligation de quitter le territoire, hein, voire d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Pour 5 ans,
qui peut être 5 ans. Alors, comme toute circulaire, ce texte, vous l'avez dit, n'a pas de valeur juridique. Hein. Donc, en cas de refus de séjour, seule la loi, la réglementation et les textes internationaux peuvent être invoqués devant le tribunal. Donc, c'est important. Alors, cette circulaire concernait principalement 3 catégories de situations, la vie privée et familiale, le travail et l'humanitaire. C'est surtout en fait le titre du travail qui est visé, mais pour prouver la réalité, alors il faut prouver la réalité, la durée de l'activité professionnelle antérieure, il faut des bulletins de salaire difficiles quand on a travaillé sans papier. Donc,
on peut dire que c'est quasi impossible.
Ouais.
Pour
un certain nombre de gens, peut-être.
Travailler les chefs d'entreprise.
Bien sûr, ils ne vont pas se manifester lorsqu'ils ont employé quelqu'un, donc c'est difficile. Hein. Par contre, pour l'engagement à venir, quand quelqu'un a un travail qui va l'avoir, il n'y a pas de liste de métier et un CDD est possible. Ce n'est pas forcément un CDI. Hein. Donc voilà, ça donnait une toute petite ouverture. Hein. Mais je répète, les preuves à présenter sont importantes. Donc on a fait un certain nombre de demandes actuellement à Strasbourg. Moi j'arrive difficilement à évaluer hein, pour l'instant ce qui a pu finir. Voilà. Et puis pour finir, il y a une dernière circulaire le 11 mars. Donc le ministre dit qu'il veut rompre avec la politique du chiffre, mais il veut faire un maximum d'éloignement. Alors, je parlais de grand écart, hein. Voilà, on en est là. Et quand on lit cette circulaire, elle parle énormément d'éloignement, hein, beaucoup, dans une approche plus qualitative que quantitative. Voilà. C'est un texte de lutte contre l'immigration irrégulière. Hein. Donc il veut mener une action, alors j'ai repris ces mots, une action ferme, déterminée, dans le respect du droit des personnes, faire un maximum d'éloignement, mais dans un cadre transparent.
Moi, je ne mange pas.
Alors, et il dit bien que ce n'est pas le nombre d'expulsions qui sera un indicateur, mais l'efficacité de la procédure, c'est-à-dire le départ effectif de personnes. Le départ effectif de personnes, parce que je vous disais avant que dans les centres de rétention, il y avait un certain nombre de personnes qui effectivement n'étaient pas, ne sont pas expulsables, donc ils ne partaient pas. Donc, à voir ce que ça va donner. Le travail des juges intervenant aussi en centre de rétention, et chaque décision de libération d'un étranger sera comptabilisée comme un échec de la préfecture. Ah,
c'est incroyable.
Alors, voilà. Donc, on va voir ce que... Vous voulez que je répète?
Oui.
Chaque décision de libération d'un étranger, donc en rétention, hein, sera comptabilisée comme un échec du préfet. Parce que ça veut dire qu'il a été placé là, alors qu'il n'avait pas à y être, mais bon, voilà, etc. Et donc, si le juge des libertés le remet en liberté, mais c'est le préfet qui... Voilà. Et la troisième, donc il y a une troisième catégorie d'indicateurs qui touche alors le nombre des filières démantelées. Donc voilà, il va y avoir des statistiques, hein, en fait, très, très importantes.
Les employeurs utilisant des étrangers, voilà. Sans titre de séjour.
L'identification des patrons qui faisaient travailler des étrangers sans papier. Ça, je pense que de toute façon, ces derniers temps, on en a vu beaucoup moins, parce que, bon, là... La législation était costaud, hein, sur eux. Voilà, donc en fait, une clarification des statistiques. Alors, dans le même texte, on trouve aussi quand même la demande de faire cesser les interpellations au guichet des préfectures. Mais alors moi, là-dessus, je vais dire que depuis quelques temps, nous avons de nouveau la police en bas de la finale. Alors, c'était fini, hein, et j'ai vu l'autre jour en prison un monsieur qui perd un enfant français. Bon. Et qui est en prison parce qu'il a refusé de s'embarquer. Mais avant ça, il s'est fait arrêter dans la rue par la police parce qu'il venait à la CIMAD. Ils étaient à l'arrêt de prison. Donc on va rappeler le préfet, mais on ne l'avait plus eu pendant quelques mois quand même. Et là, cela recommence. Voilà. Donc, cette circulaire défend des positions très strictes. Elle incite les préfets à déclarer systématiquement les étrangers en situation irrégulière ou fichés des personnes recherchées. Moi, ça me touche particulièrement parce que je fais des visites de prison. Et je suis en train, depuis 3-4 semaines, de voir de plus en plus de gens. Alors, ça ne touche pas vraiment le préfet parce qu'il y a aussi des interdictions de territoire qui sont données par les juges, mais je vois de plus en plus de gens qui ont des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire, des interdictions de territoire, alors que père d'un enfant français, voilà, il y a 5 ans d'interdiction de territoire, parce que sous prétexte qu'il ne s'en occupe pas, ben voilà. Je vois aussi un nouveau délit, alors vous pouvez peut-être me renseigner, non-communication de papier permettant d'éloigner la personne. Sauf que la personne n'a aucun titre parce qu'elle est née au Gabon, a été emmenée au Congo, elle n'a vraiment rien. Elle n'est reconnue par aucun consulat, donc à la limite pas expulsable, elle s'est pris 5 ans d'ITR. Et là, je ne sais pas quoi faire. Donc voilà, des situations vraiment qui sont rudes, hein, et on voit que le but, c'est vraiment l'expulsion, ça. C'est de faire partir le plus de personnes possible. Voilà. Donc, des ressortissants étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'éloignement à mettre en œuvre dès la sortie de prison. Et alors, vous disposez de protocoles signés avec les autorités judiciaires qui doivent faciliter cette préparation. Ça veut dire que pendant que la personne est en prison, on le prépare, la préfecture prépare son éloignement. Hein, donc, il y a là un travail entre la PAF, donc la préfecture et le système judiciaire pour qu'il soit bien là à la sortie et qu'on n'oublie personne. Ce sont des gens qui sont souvent accusés de troubles à l'ordre public. Alors, bon, moi, je vois aussi des gens qui ont volé une bouteille de whisky, hein, qui sont en prison parce que des étrangers, on les met en prison dans ce cas-là. Hein. Pas des Français, mais des étrangers. Et donc, on me dit, le préfet nous a bien dit la circulaire, ok, mais pas pour les gens qui sont en détention. Donc, trouble à l'ordre public. Non, les gens qui sont en détention, c'est trouble à l'ordre public. Donc, ils ne peuvent pas entrer dans le cadre de la circulaire. Voilà.
Je pense que la conclusion de l'article dans le Monde dit clairement les choses en disant « Le défenseur des droits des étrangers accuse souvent M. Valls d'habiller une politique migratoire de droite avec les habits de l'humanisme de gauche. À ce titre, la circulaire adressée au préfet le 12 mars constitue moins une rupture avec la politique de l'ancienne majorité qu'une inflexion. Et vous remarquez la nuance, c'est pas mal.
C'est au cœur
du sujet qu'on a annoncé.
Moi-même, les habits de l'humanisme de gauche, je trouve pas beaucoup d'humanisme dans un certain nombre de toutes dernières mesures. Là. Et puis alors, bon, il y a eu cette fameuse déclaration à propos des Roms, on revient à ce problème, qui a été quand même soulevé, qui est scandaleuse, parce que c'est une vraie discrimination d'une population qu'on appelle, qu'on utilise des termes ethniques.
Il y a des juges qui ont dit que ça tombe sous le coup de la loi. Poursuivre Valls, ce qu'il a déclaré, en gros, il a assimilé tous les Roms, Roumains et Bulgares, à des délinquants. Ça tombe sous le coup de la loi.
En disant qu'ils n'étaient pas intégrables.
Voilà.
Ils ne sont pas intégrables, donc il faut les renvoyer dans leur pays. Non, il a dit qu'il fallait les renvoyer dans la rue.
Oui,
je crois qu'il faut être clair là-dessus. Donc c'est quand même extrêmement discriminatoire. Et le fait d'interpeller des gens en utilisant des termes ethniques, moi j'ai trouvé ça très grave.
Enfin, il y a d'ailleurs là-dedans, quand il dit, la circulaire demande au préfet de ne plus comptabiliser les retours, entre guillemets, volontaires, comme des expulsions. Il représentait jusque-là plus d'un tiers des éloignements et était constitué surtout de populations roms touchant une aide financière.
Ça, c'est ceux à qui on donnait avant 500 euros pour partir.
Il a supprimé
effectivement la possibilité de le toucher 2-3 fois.
Mais parce que ça faisait gonfler, ça permettait de gonfler les chiffres d'inscription, voilà. Et comme très probablement ces chiffres vont être légèrement baisse du fait qu'on ne les comptabilise plus, il y a toute cette littérature qui a été rajoutée. Voilà.